L'inattendu.
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 On poursuit notre quête de l'inattendu.
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 Et bonjour à tous et bienvenue dans l'inattendu du jeudi 23 mai 2024. Il est 17h et je crois que dehors il fait à peu près beau. Je pourrais ajouter également que le 23 mai, le 143e jour de l'année, mais moins souvent le 144e jour de l'année du calendrier grégorien, il en reste ensuite 222. Et si vous doutiez des choses qu'on peut apprendre dans cette émission, quoi de mieux comme contre-exemple? Mais pour le moment, je vous propose de rentrer dans une heure d'inattendu. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille chaleureusement notre nouvelle chargée de rédaction, Héloïse.
Bonjour Milad, merci, je suis ravie de vous rejoindre à la rédaction de Syllab.
Merci Héloïse, nous aussi également, hein, très contents.
Bien sûr.
Pour ma part, je t'ai découvert aujourd'hui. Mais dis-moi Héloïse, qu'est-ce qui nous attend au programme de l'émission de ce soir?
Alors ce soir, nous recevons Dominique Lavenier, qui est directeur de recherche CNRS à l'IRISA. Donc c'est l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Et aussi à l'INRIA, j'espère que je prononce bien, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique de Rennes. Il vient nous parler d'un projet révolutionnaire porté par de nombreux chercheurs du CNRS et de l'IRISA, celui du stockage numérique de l'ADN.
Ensuite, vous pourrez entendre Garance vous parler de CPI, ou Cour pénale internationale, afin de comprendre son fonctionnement, ses enjeux, ainsi que son rôle dans le conflit israélo-palestinien.
Et à la fin de l'émission, Milad, tu nous feras part de tes bons plans du week-end.
Mais pour l'heure, et c'est le cas de le dire, c'est l'heure du flash de la rédaction du 23 mai 2024, présenté par Angelina.
La Chine a lancé des manœuvres militaires autour de Taïwan, 3 jours après la prise de pouvoir du nouveau président taïwanais, Lai Ching-ti. Une démarche d'intimidation pour condamner des actes de séparatisme de l'île. En réponse, les gardes-côtes taïwanais ont également déployé leur flotte en mer pour défendre leur souveraineté et leur sécurité. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Oui, le chef d'État français a notamment rencontré les loyalistes puis les indépendantistes. Il a tenté sans succès de renouer le dialogue dans l'archipel à la suite du désaccord sur le projet de loi d'élargissement du corps électoral.
La réforme sur l'audiovisuel fait débat.
À partir d'aujourd'hui, les députés s'apprêtent à examiner une réforme de l'audiovisuel public votée en juin 2023 par le Sénat. La fusion concernerait Radio France ainsi que France Télévisions, l'INA et France Média Monde. Les syndicats, eux, s'opposent à cette fusion. Radio France a d'ailleurs en grève aujourd'hui et jusqu'à demain. Déjà hier, dans Le Monde, plus de 1100 journalistes avaient signé une pétition contre la réforme. On reste dans le domaine de l'audiovisuel avec la radio rennaise Canal B. Pour leurs 40 ans de station, les animateurs proposent 40 heures d'antenne en live dans leur studio et partout en ville. Raphaël Glucksmann, candidat de Place Publique et du Parti Socialiste aux élections européennes, se déplacera prochainement en Bretagne. Il sera notamment présent le 24 mai à Rennes en début d'après-midi. Il se dirigera ensuite vers le Morbihan. Brunessant Bertrand, rennaise et professeur spécialiste de droit public européen à l'Université de Rennes, a reçu hier les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Elle est aussi reconnue en tant que chercheuse en droit impliquée au numérique et à la cybersécurité.
C'était le flash d'Angelina, merci. Et tout de suite, l'interview de Milad.
Bonjour Dominique Lavenier.
Bonjour.
Dominique Lavenier, vous êtes directeur de recherche CNRS à l'IRISA, Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, et l'INRIA, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de Rennes, pour évoquer un ambitieux projet, celui de stocker des données dans l'ADN. Le projet a donc été envisagé il y a de cela quelques temps. Est-ce que c'est désormais envisageable? Est-ce que aujourd'hui le stockage de données dans l'ADN est au stade de la possibilité?
Oui, aujourd'hui, on a démontré qu'il était possible de stocker de l'information dans l'ADN. Ça, c'est tout à fait démontré.
Et alors, où en est-on dans ces recherches actuellement? Qu'est-ce que ça donne, justement? On parle à quelle échelle de temps? On parle sur une échelle encore de plusieurs années de recherche sur ce sujet?
Donc, on en est effectivement au tout début, hein, comme toutes les nouvelles technologies. L'industrialisation du processus n'est pas encore pour demain. On peut dire que on peut tabler sur les 20 à 30 prochaines années encore de recherche et d'amélioration de la technologie.
Alors il faut quand même rappeler que chaque jour, l'humanité produit l'équivalent en masse de données, l'équivalent de plusieurs milliards de disques durs. Alors en quoi, justement, le stockage de données numériques dans l'ADN peut être quelque chose de révolutionnaire? Et qu'est-ce que cela change par rapport au stockage des données classiques?
Alors, il y a deux grands principes, on va pouvoir dire. Le premier, c'est que l'ADN est une structure extrêmement compacte. On pourrait stocker pratiquement aujourd'hui toutes les données produites par un humain, du moins par l'humanité au niveau mondial, dans une pièce. Alors qu'aujourd'hui, il faut des centaines de data centers pour stocker toutes ces données. Donc c'est ça, la première chose, l'ADN est extrêmement compact. La deuxième chose, c'est que c'est une structure qui dure dans le temps. On pourrait éventuellement stocker pour des centaines, voire des milliers d'années, de l'information dans les molécules d'ADN sans avoir à régénérer ces molécules d'ADN, contrairement aujourd'hui aux dispositifs de stockage classiques, comme les disques durs, les bandes magnétiques ou les mémoires électroniques, qu'il faut remplacer systématiquement tous les 5 à 10 ans.
Et c'est vrai que vous le dites, les data centers croissent tous les ans, c'est à peu près 20% de plus chaque année, donc le chiffre double à peu près tous les 4-5 ans. Il y a vraiment aussi un enjeu donc, climatique et sur le plan de la durabilité, l'artificialisation des sols, qui est un sujet très important, là on gagnerait en effet beaucoup d'espace.
Ah oui, tout à fait. Non seulement on gagnerait de l'espace, mais on gagnerait aussi beaucoup d'énergie. Il faut savoir que les data centers, ce sont des centres extrêmement énergivores. Ce sont des bâtiments qui peuvent faire 100 000 mètres carrés. Il faut quasiment une petite centrale nucléaire pour les alimenter. J'exagère à peine. Donc là, on gagnerait effectivement en énergie, en consommation d'énergie.
Surtout que les recherches aujourd'hui le disent, ce qui est capable de stocker un data center, c'est finalement une fraction comparée à ce qui est produit tous les jours en termes de données.
Oui, 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 effectivement. Et d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les données croissent de manière forte, de manière exponentielle. C'est-à-dire que tous les 2 ans, quasiment, on double la production des données. Et si on veut stocker ces données, ou du moins une partie de ces données, il faut forcément envisager en conséquence les dispositifs de stockage.
C'est vrai que justement, le site Interstice, le site de recherche en informatique et en mathématiques, montre justement un schéma du volume, d'une estimation du volume des données numériques multiplié par 12 d'ici 2035. Est-ce que finalement, de telles recherches sur plusieurs années, c'est un peu une nécessité quand on voit la croissance de ces données sur les réseaux sociaux, par l'utilisation croissante aussi d'Internet, c'est une nécessité aujourd'hui?
Ah, effectivement, hein, si on continue à ce rythme, on ne saura plus stocker les données dans une dizaine d'années ou dans une vingtaine d'années. Donc il y a nécessité, et c'est ce qui motive nos recherches, de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives pour pouvoir stocker les données.
Et puis il y a évidemment aussi un enjeu plus international, toutes les questions sécuritaires. C'est sûr qu'attraper ou en tout cas essayer d'avoir en possession de l'ADN avec de l'information comparée aux data centers qui sont visibles dans l'espace, qui sont peut-être plus tangibles. Et quand on voit justement toutes les guerres numériques en ce moment, par exemple, entre la Chine et les États-Unis autour de TikTok, les données numériques, ça a une valeur internationale. C'est sûr que ça va changer la donne, justement, si on arrive à stocker des informations comme ça sur l'ADN.
Effectivement, si on arrive à stocker des informations sur l'ADN, donc en grande quantité, dans un tout petit volume, on peut les mettre en sécurité beaucoup plus facilement. Ça, c'est certain. Oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et vous le dites d'ailleurs dans un entretien, alors je ne sais plus si c'est vous exactement, mais en tout cas des chercheurs du CNRS, puisque vous n'êtes pas seul dans ces recherches, c'est de montrer que le stockage d'informations de l'ADN, c'est quelque chose de naturel, hein. C'est quelque chose qui existe déjà, en fait, ça n'a rien d'artificiel.
Ah, tout à fait. Hein. La nature y travaille depuis 4 milliards d'années, donc on n'a absolument rien révolutionné. Hein. Le patrimoine génétique, je veux dire l'information génétique des êtres vivants, est stockée dans la molécule d'ADN. C'est le mode d'emploi en fait, du fonctionnement des cellules et de leurs interactions. Donc de ce point de vue-là, stocker de l'information sur ADN, on ne peut pas dire que c'est révolutionnaire. La nature l'a fait bien avant que l'homme existe.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des points faibles de l'ADN, puisque, en effet, voilà, cet ADN est capable de stocker énormément d'informations. Par contre, par rapport à la lecture, par exemple, de ces informations, il y a certaines lenteurs comparées à un disque dur ou à un CD, par exemple.
Ah, tout à fait. On en est encore au début des technologies. Comme toute technologie, il faut qu'elle évolue. Aujourd'hui, le point faible, effectivement, c'est l'écriture d'informations dans l'ADN. C'est de produire de l'ADN synthétique pour stocker l'information. C'est encore un processus extrêmement lent, extrêmement coûteux, et les technologies actuelles sont encore excessivement polluantes. Donc ça, ce sont un peu les côtés moins positifs du stockage de l'ADN. Mais comme toute technologie, l'évolution feront qu'au fur et à mesure, ces points faibles vont être, j'espère, éliminés.
Et est-ce que justement ces recherches aujourd'hui qui sont collectives, elles sont suivies par des acteurs différents, l'acteur politique ? Quel regard il porte justement sur ce genre de recherche ?
L'acteur politique, oui, tout à fait. Si en France, il y a un grand programme de recherche sur le sujet qui a été lancé, c'est grâce à des personnes politiques, on va dire plutôt d'abord scientifiques, des membres, notamment un membre de l'Académie des technologies, qui est intervenu à plusieurs niveaux dans la société, au niveau politique, pour faire comprendre les enjeux du stockage d'informations sur l'ADN et des problématiques qui pourraient apparaître s'il n'y avait pas de recherche lancée dans ce domaine. Et donc, à ce titre, en France, il y a un grand programme de recherche qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, doté de plusieurs dizaines de millions d'euros pour travailler sur le sujet.
Alors, il y a une question, je le disais tout à l'heure, de souveraineté numérique. Est-ce que vous avez déjà envisagé les risques qui pourraient exister si on stockait l'information sur l'ADN ou justement, au contraire, on est vers une atténuation de ce risque ?
Alors, les risques, comme toute technologie, ils existent toujours. Hein. La question qu'on pose souvent, c'est lorsque vous allez synthétiser de l'ADN, est-ce que par hasard, vous ne synthétisez-vous pas un virus ou quelque chose de mauvais pour l'environnement ? La probabilité est extrêmement faible pour faire ça. Mais il y a toujours des risques. Donc il y a des commissions aujourd'hui qui se réunissent, qui se mettent en place pour évaluer finalement tous ces risques.
Et par rapport au stockage de l'information et par rapport à ce problème de lecture, il faut bien prendre conscience que les informations que nous pourrons utiliser et conserver par le biais de l'ADN, elles devront être sélectionnées. On ne pourra pas tout conserver, on va dire, justement par rapport à ces problèmes de lecture et de problèmes de lecture, tout simplement.
Non, je pense qu'on pourra tout conserver.
Tout conserver, ça.
Tout conserver. C'est un des avantages de l'ADN. D'être une structure extrêmement stable dans le temps. Le problème de la lecture, il est ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire l'information sur une molécule d'ADN, on va la détruire. Donc là, le problème, il est comment est-ce qu'on évite cette destruction ? Donc on y travaille. Hein, un des principes, c'est de, avant de faire la lecture, c'est de recopier l'information. Et ça, la machinerie du vivant sait très bien de faire. Recopier l'ADN à faible coût et en grande quantité, ça pose pas de problème. Il faut juste maintenant automatiser, mécaniser le processus pour pouvoir lire l'ADN sans le dégrader.
Et dans ce parallèle avec le disque dur, voilà, on voit très bien comment fonctionne un disque dur. On le branche sur un ordinateur, ça permet de faire la liaison entre les fichiers qui sont sur le disque dur et l'ordinateur. Mais comment ça fonctionne avec l'ADN, justement ? C'est moins visible pour les auditeurs, peut-être, l'utilisation qui sera possiblement faite au futur dans le domaine de l'informatique.
Oui, alors, on peut essayer d'expliquer simplement les choses. Hein. Une molécule d'ADN... En simplifiant beaucoup, c'est un enchaînement de nucléotides, donc les 4 nucléotides de base du vivant, les fameuses lettres A, C, G, T. Donc lorsqu'on lit une molécule, avec des appareils aujourd'hui qui sont utilisés en génomique, pour décrypter en fait les génomes des êtres vivants, ces appareils en fait sont capables de reproduire textuellement l'enchaînement de ces nucléotides. Donc c'est un alphabet à 4 caractères. Et d'un point de vue informatique, transformer cet alphabet en 4 caractères en alphabet numérique, c'est immédiat. Donc tout ce qui peut être transcrit en numérique, en binaire, on peut le retranscrire sur cet alphabet à 4 caractères et inversement. En fait, ça marche dans les deux sens. Donc, lire de l'information, c'est décrypter cette molécule et transcrire la suite de nucléotides ACGT en une suite binaire d'informations de 0 et de 1, qui est le stockage usuel des documents numériques aujourd'hui.
Vous l'expliquiez tout à l'heure, la commercialisation n'est pas pour tout de suite, mais on peut envisager justement que les grandes entreprises, les GAFAM peut-être aussi, puissent s'intéresser à ce genre de processus.
Ah, tout à fait. Il y a une alliance aux États-Unis qui a été mise en place notamment par Microsoft, qui a pris conscience du problème du stockage de données et qui s'est alliée avec des grands constructeurs justement de synthèse d'ADN, d'autres de lecture d'ADN, pour essayer de mettre en place un consortium international, non seulement pour réfléchir, mais aussi pour proposer des solutions assez rapidement. On parlait tout à l'heure d'industrialisation. Il commence à y avoir des sociétés qui commercialisent le stockage d'informations sur ADN. Alors, pas forcément dans un but de stockage, on va dire, compact, mais dans un but de stockage à long terme. Si vous avez des documents extrêmement précieux que vous voulez stocker un millier d'années, on peut le faire aujourd'hui. On est capable, même si ce n'est pas complètement automatisé, on est capable de le faire. Et il y a des entreprises qui se sont engagées dans ce créneau-là.
Alors, on le disait au début de l'interview, on est au début de ces années de recherche, mais si on devait prendre l'instant T en ce moment même, où en est-on de ce travail autour de l'ADN et du stockage de l'information dans l'ADN ?
Alors, le travail proprement parlé au niveau recherche a démarré il y a une douzaine d'années, lorsqu'on s'est rendu compte du problème de la croissance exponentielle de ces données, qu'un jour il nous faudrait trouver d'autres solutions, et puis lorsqu'on s'est rendu compte que les biotechnologies commençaient à être matures. Par exemple, on sait maintenant très très bien lire l'ADN. Au niveau codage de l'information, d'un point de vue numérique, ça pose pas de problème. Le point critique aujourd'hui, c'est la synthèse de l'ADN. Il faut probablement attendre une rupture technologique pour que ça puisse se faire à bas coût.
Eh bien, merci Dominique Lavenier d'avoir répondu à nos questions. Donc, directeur de recherche CNRS à l'IRISA et à l'INRIA Rennes, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
L'interview que vous venez d'entendre est à réécouter sur syllab.fr. Avant la suite de l'émission, on vous propose une petite pause musicale avec Noé du groupe Fougeray Rosalie. c'était Noé du groupe Rosalie que vous pourrez entendre au festival Rock and Fée. Ça se passe ce week-end à Brie et d'ailleurs n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site. Un pass deux jours est à gagner, il suffit de se rendre dans la rubrique concours, c'est sur syllab.fr.
L'inattendu sur Syllab, 17-18h.
Et nous voilà entrés dans la deuxième partie de l'émission, en quelque sorte dans le virage d'en face sur la piste. Et avant d'entamer la dernière ligne droite et les bons plans, c'est d'abord l'heure d'accueillir Garance pour sa chronique du jour.
La France a officiellement annoncé soutenir la Cour pénale internationale après sa demande de mandat d'arrêt contre les dirigeants d'Israël et du Hamas. Mais au fait, c'est quoi la CPI ? Réponse de Garance.
L'actualité de ces derniers jours est fortement marquée par un déchaînement de la violence dans le monde. Le 20 mai 2024, le procureur général de la Cour pénale internationale a demandé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense ainsi que trois des principaux dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tout le monde connaît plus ou moins cette Cour pénale internationale. Là où l'histoire se corse un peu plus, c'est lorsqu'il s'agit de comprendre comment elle fonctionne concrètement. La CPI est instituée en 1998 suite à l'entrée en vigueur du statut de Rome, ratifié aujourd'hui par 124 États. C'est la première juridiction pénale internationale permanente. L'objectif premier de la CPI est de juger les personnes accusées des crimes touchant l'ensemble de la communauté internationale, ce qui comprend concrètement les cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Il y a plusieurs points très importants à retenir ici. Tout d'abord, la CPI a la capacité de poursuivre les crimes commis sur les territoires ou par les ressortissants des pays ayant ratifié le statut de Rome. Ensuite, la CPI ne remplace en aucun cas les tribunaux nationaux. Elle ne peut intervenir seulement dans le cas où un État est dans l'incapacité ou n'a pas la volonté de mener véritablement à bien des enquêtes et de traduire en justice des auteurs de crimes. Elle est en fait pensée comme une justice complémentaire. Enfin, la Cour pénale internationale poursuit des individus, non des groupes ou des États.
Mais alors comment fonctionne-t-elle concrètement ?
La CPI est composée de quatre organes. Le premier, c'est la présidence, qui est chargée de l'administration, du bon fonctionnement de la CPI. Elle est également le visage de la CPI, la représentation aux yeux du monde, et s'assure que les peines à l'encontre des individus reconnus coupables soient exécutées. Le deuxième organe, c'est la chambre, les chambres, qui sont chargées de juger l'affaire qui est traitée par la CPI. Ensuite, nous avons le bureau du procureur, qui est un organe indépendant au sein de la Cour, qui est chargé de recevoir et d'analyser les informations sur les situations ou les crimes qui sont ciblés par la CPI. C'est le bureau qui va décider s'il faut ouvrir une enquête, par exemple, soit pour crime de génocide, soit pour crime contre l'humanité, etc. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le greffe. C'est un organe qui aide la Cour à mener des procès équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir une assistance administrative aux chambres ainsi qu'au bureau du procureur. Il est également l'organe de communication officielle de la Cour. Il est donc le principal responsable des activités d'information et de sensibilisation menées par la CPI. Tout État faisant partie du statut de Rome peut demander au procureur d'ouvrir une enquête. Un État qui ne fait pas partie du statut peut aussi accepter la compétence de la Cour pour des crimes commis sur son territoire ou par l'un de ses ressortissants et demander au procureur de mener une enquête. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également renvoyer une situation devant la Cour. Après avoir vu toutes ces informations, abordons quelques cas concrets d'actualité qui ont mobilisé les compétences de la Cour internationale de justice. Un exemple assez spécifique est celui de la guerre en Ukraine. Excusez-moi, il est spécifique car si vous avez réussi à suivre jusque-là mes explications, vous vous souvenez que la CPI ne peut intervenir que sur les territoires des États qui ont ratifié le statut de Rome. Or, l'Ukraine n'est pas un État faisant partie du statut de Rome au même titre que la Russie qui a retiré sa signature. Cependant, l'Ukraine a accepté la compétence de la CPI pour les crimes commis sur son territoire depuis 2013, depuis en fait l'annexion de la Crimée. Après l'attaque russe en Ukraine, la Lituanie a saisi la Cour, rapidement suivie par 38 autres États, ils sont aujourd'hui 42, permettant ainsi au procureur d'ouvrir son enquête sans avoir à demander l'aval des juges de la juridiction.
Merci Garance pour ces explications. Et si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre un peu plus, nous vous invitons à consulter le site de la CPI.
Et tout de suite, on fait une nouvelle pause musicale dans cette heure d'inattendu. Et si tout va bien pour vous et pour nous également dans ce studio, pourquoi ne pas passer par ce titre du chanteur et guitariste venu du Floride Phil Celeste dans son projet solo Life on Planets. Tout de suite sur l'antenne, She Rides the Wind de Life on Planets featuring Arlissa.
Summer in Ibiza, winters in Tulum, gypsy Mona Lisa, on a path of the moon, speaking five languages, always know what's happening, smile big, I ain't pretend, her stories never end, but when the club close, nobody know where she go, she slide with a wind blow, but she dance like whoa, dance like whoa.
D'entendre She Rides the Wind de Life on Planets, ici aux côtés de Arlissa, une chanteuse et compositrice britannique d'origine allemande, et toujours dans l'inattendu.
Vous êtes toujours dans
l'inattendu.
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 C'est l'heure des bons plans de Milad.
Et oui, et dans le cadre de la 11e édition du festival Culturissimo, l'espace culturel Édouard Leclerc de Rennes-Clenay propose une lecture par Didier Sandre du roman Idis de Robert Badinter. Cet événement gratuit aura lieu le mardi 28 mai à 19h30 au Théâtre de la Parcheminerie à Rennes. Les invitations sont à retirer à l'espace culturel Édouard Leclerc de Rennes-Clenay dans la limite des places disponibles. Et place au théâtre, une troupe de théâtre étudiante rennaise de l'association de l'Ascrèble, située sur le campus de Rennes 1, présente la pièce de théâtre engagée Katharina et la beauté de tuer des fascistes, le 23 mai à la MJC du Grand Cordel à 20h et le 6 juin à la maison des associations de Rennes également à 20h, et c'est gratuit.
Et puis pour rester chez soi,
Et puis pour rester chez soi, il y a toujours l'option de regarder le Giro. Pour l'instant, archi dominé par Tadej Pogacar, les dernières étapes se dérouleront ce week-end avec une arrivée à Rome dimanche, alors que le Slovène a gagné 5 étapes. Et puis comme Marie-France Garot, l'ancienne conseillère de Georges Pompidou et de Jacques Chirac, est décédée aujourd'hui à l'âge de 90 ans, et que vous êtes peut-être un ancien partisan du RPR, peut-être avez-vous prévu de rester chez vous pour lui rendre un dernier hommage. Et on a une radio locale, mais si vous avez un peu de temps et que vous êtes fan de cinéma, on vous rappelle que le Festival de Cannes a toujours lieu sur la Croisette, mais franchement, ça risque de vous coûter un plein de carburant ou un billet de train possiblement excessif en termes de tarifs, alors c'est à vous de voir. Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas trouvé grand-chose dans les médias, mais si vous vous souvenez, la semaine dernière, eh bien, nous recevions les membres de la Zinzinerie, et oui, ce sera donc le Festival de micro-édition qui se déroulera ce week-end au BAM, et voilà, il faut en parler, ce sera ce week-end, samedi, dimanche, le 25 et 26 mai, prochain, voilà, et sinon je vous propose de vous lancer dans les rues de Rennes ce week-end, vous trouverez sûrement des choses à faire très belles.
Merci Milad, l'inattendu c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain à 17h pour une émission très spéciale, un peu plus longue, avec salariés, bénévoles et membres du CA sur le thème de l'engagement.
Et on remercie également nos chroniqueurs du soir, Garance surtout ce soir, ainsi que Maxime derrière la vitre à la technique.
L'émission de ce soir, ce sera Putiton avec Mathias.
Et on vous souhaite une bonne soirée sur
CNN. Bonne soirée.